Padre Events, Padre comme prêtre, Events comme événement, un blog, des blogs, un projet et des projets même, surtout une réalité, une dynamique de rencontres personnelles et en réseau initiée le 10 juin dernier par plusieurs prêtres soutenus par l'évêque du diocèse de Versailles, Monseigneur Aumonet. Alors ils sont beaux, jeunes, dynamiques, ils utilisent les moyens modernes de communication, site internet, un teaser sous forme de carte et dans la foulée une course de cartes en juin prochain réservée aux prêtres. Prêtres, faut-il être branché pour évangéliser? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui en direct de l'évêché de Versailles avec nous trois invités. Père Pierre-Hervé Grosjean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vicaire pour les paroisses du groupement de Houille et de Carrières-sur-Seine. À vos côtés, Père Olivier de Montardy, bonjour.
Bonjour Élodie.
Vous êtes vicaire de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc à Versailles et vous êtes en charge notamment de la coordination du projet. Père Pierre Amar, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes prêtre vicaire à la paroisse du Chesnay et de Rocancourt. Alors, ski, raclette, fondue géante, dernier événement en date des prêtres à la Sono jusqu'à 4h du matin pour le réveillon du 31 décembre. Vous vous amusez bien apparemment, Père Olivier de Montardy. Vous avez décidé de vous la jouer cool?
Non, c'est pas ça, mais... ça fait seulement 3 ans que je suis prêtre et j'ai découvert un truc, c'est que... pour qu'un projet pastoral marche, il faut qu'on soit bien dedans. Il faut qu'on fasse des choses qui nous plaisent à nous aussi, vous voyez. Si on se force à faire des plans avec des topos interminables, avec des activités qui nous passionnent pas nous-mêmes, on aura du mal à les vendre. En revanche, si on part à la montagne, qu'on escalade des sommets et qu'on fait la fête, bah, on peut le faire en chrétien, avec une dimension spirituelle forte. Et là, ça plaît aux jeunes aussi.
On est loin du confessionnal du curé d'Ars.
Il y avait beaucoup de confessions, détrompez-vous, à notre dernier plan en montagne. Là. Non, ça marchait bien. On avait un petit peu peur parce qu'on sortait de Noël.
Ouais.
Et puis, les bons cathos, ils se confessent avant Noël. Donc on s'est dit, il y aura l'adoration en même temps. Mais on risque d'attendre un petit peu au confessionnal. Rien du tout, ils sont tous revenus. Ils avaient des choses à dire encore. Comme quoi.
Hein. Comme quoi, finalement. Père Pierre Amar, comment est né le projet?
Alors le projet est à l'initiative en fait de plusieurs prêtres et notre évêque nous a soutenus et nous a même un peu encouragés, il faut le dire. C'était en juin dernier, le père de Montardy nous a contactés. Il y a des liens amicaux entre nous, hein, c'est inévitable et on s'entend bien, on est à peu près la même génération. Moi je suis prêtre depuis 8 ans, mais peu importe, il n'y a pas de grade entre nous, on est tous serviteurs de l'Église et serviteurs du Seigneur. L'idée c'était de se dire, on s'entend bien. Nos jeunes le savent peut-être pas, en tout cas le voient peut-être pas assez, parce qu'ils nous voient hyper investis dans nos paroisses, on est présent à telle célébration, à telle réunion, mais en fait ils savent pas que nous, en semaine, on s'appelle, on se voit des mails, on dîne au restaurant, on va au cinéma. Je suis allé voir Avatar, moi, avec certains des confrères qui sont autour de cette table, et voilà. Et du coup, grande surprise pour nos jeunes de voir que les prêtres s'entendent bien, ont des liens amicaux et fraternels. Donc c'était la base de ce projet.
Montrer que des prêtres peuvent être prêtres et normaux dans le monde dans lequel les jeunes vivent au 21e siècle.
Exactement, bien dans leur tête et bien dans leur pompe.
Ouais, puis en équipe aussi, parce que souvent on se fait une image du prêtre diocésain comme étant seul, seul dans son presbytère, seul dans sa paroisse, alors qu'en fait entre nous on se voit beaucoup de manière informelle. Et donc là, l'idée, c'était aussi que notre pastorale, on la vive à plusieurs. Parce que du coup, on concentre des énergies. Alors c'est vrai que c'est un investissement important pour nous, hein, que de monopoliser une dizaine de prêtres pour un seul événement. Mais ça...
Vous êtes aujourd'hui 15 prêtres impliqués dans l'affaire.
Oui, c'est ça. Alors jamais tous les 15 sur un seul projet. On est entre 4 et 10 prêtres pour un seul projet. Mais du coup, voilà, on concentre toutes les énergies. Et puis on donne à voir, c'est vrai, la joie et l'unité qui nous rassemblent.
Alors, événements, rencontres et des outils de communication d'aujourd'hui avec notamment des blogs. Alors, je parlais de Padre Cup, Padre Blog, Padre Events, Père Pierre-Hervé Grosjean, vous êtes un petit peu aux commandes du Padre Blog.
Oui.
Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Tout simplement, avec Internet, on a un nouveau territoire d'évangélisation qui s'est ouvert pour nous. 99,9% de nos jeunes y passent du temps, peut-être parfois trop de temps, et donc c'est un territoire qu'on peut pas laisser sans présence chrétienne. Le prêtre, il est là où sont ses brebis, et il y va. Il y va peut-être d'une façon particulière, hein, il s'agit pas d'imiter non plus tout ce qui se fait, il s'agit de garder une certaine liberté, mais voilà, on a ouvert ce blog avec d'autres jeunes prêtres, et l'expérience montre que c'est un très bon moyen de contact avec nos jeunes. Que ça soit le blog, que ça soit les pages Facebook, que ça soit d'autres sites. Aujourd'hui, je suis persuadé que nos jeunes, beaucoup de nos jeunes en tout cas, et en particulier ceux qui sont pas forcément les plus proches de l'Église, n'osent pas venir sonner à la porte du presbytère. Et souvent, on s'aperçoit que la page Facebook ou que l'article du blog est un peu la porte à laquelle ils viennent sonner. Parce que c'est plus facile, parce que le premier pas est plus facile.
Ça engage moins.
Exactement. Dans un premier temps, en tout cas, c'est plus facile de poser la question, de venir prendre contact, tendre une perche à un prêtre à travers un blog, à travers une page Facebook, à travers... Le but ensuite, pour nous prêtres, est de transformer ça en rencontre réelle. Parce que rien ne remplace la rencontre réelle. Et c'est là où il faut savoir sortir du virtuel.
Alors, vous parliez de tout à l'heure, Père Olivier, vous parliez de bons cathos qui allaient se confesser, vous parlez de jeunes qui sont un petit peu au portail de l'Église. Quelle est la cible que vous visez? Parce qu'on sent que c'est quand même Versailles, ce sont des plans, alors on pourrait dire des plans un peu mondains, il y a le ski, il y a les soirées. Qu'en est-il?
Moi, je voudrais d'abord dire que quelque chose me frappe, c'est que la figure du prêtre, elle reste marquante pour tous. Le prêtre, il laisse personne insensible. Et même le jeune qui pratique plus ou qui est très loin, tout autant que le jeune qui est tout près, le prêtre leur parle, la figure du prêtre les touche quand le prêtre sait se montrer disponible, quand le prêtre sait se montrer accueillant aux jeunes tels qu'ils sont. Et donc, c'est une première réponse serait de dire on est là pour tous. Voilà.
Bah, on brasse large. C'est vrai qu'on a été envoyé, pour le moins Pierre Amar et moi-même, dans des paroisses plutôt favorisées chrétiennement. Mais on travaille à faire des propositions dans lesquelles tous puissent se retrouver.
Et c'est réel?
Eh ben, on espère de plus en plus. Non, il y a un vrai challenge, ouais. C'est vrai. Mais en même temps, est-ce qu'il faut, ça c'est une vraie question qu'on se pose souvent entre prêtres, est-ce qu'il faut faire des projets consensuels qui puissent rassembler tout le monde, toutes les sensibilités, toutes les approches avec des modes de vie différents, etc. Ou est-ce qu'il faut s'intéresser à chacun comme il est? Bon, je crois que cette question, elle est éternelle, on la portera toujours, hein. Mais il faut pas que ça soit en tout cas un frein aux initiatives, aux projets qui peuvent nous traverser l'esprit.
Chacun a besoin, de toute façon, alors autant servir de ce qu'on est. Vous parliez donc de ces blogs et de ces rencontres. Moi, j'ai quelques extraits que vous m'avez envoyés de demandes de jeunes, voilà, de témoignages, d'interrogations, de débauches, de rencontres, voilà, par rapport aux questions liées à l'affectivité, l'amour. Père, puis-je me permettre de vous raconter un bout de mon histoire? Je m'appelle, voilà. On a le témoignage également de quelqu'un d'autre d'un jeune homme qui parle de d'une histoire, d'une relation un petit peu compliquée avec une jeune femme qui l'aime, qui ne l'aime pas, il ne sait pas, il est un peu perdu, elle a la foi, lui n'a pas la foi, il ne sait pas quoi en penser. Je serais très reconnaissant de vouloir aiguiller un garçon dans le besoin. Est-ce qu'il y a beaucoup de rencontres réelles qui ont été suscitées par ces blogs?
Ah, moi je suis émerveillé des contacts que j'ai pu vivre, des rencontres que j'ai pu vivre, des jeunes qui ont été amenés à redécouvrir, en particulier je pense au sacrement du pardon, qu'ils n'avaient pas vécu depuis 10 ans. Parce que face à tel événement, ils tendent la perche, parce que le prêtre est souvent le seul avec qui, ou le premier avec qui, ils vont pouvoir enfin être vrais. Et ça, c'est ça qui me bouleverse, c'est que, et là, pareil, quelle que soit la foi des jeunes, ou quelle que soit leur histoire, ou leur niveau, ou leur milieu social, ils sentent bien que le prêtre va être celui qui va pouvoir tout entendre, tout comprendre, sans juger, et en même temps en étant vrai avec eux. C'est-à-dire, on ne cherche pas, et ça vaut aussi pour les moyens qu'on utilise, on ne cherche pas à plaire au sens artificiel du terme. On est vraiment nous-mêmes, on est hyper libres, on est nous-mêmes. Et du coup, ils sentent bien ça par rapport à d'autres adultes qui cherchent à faire pote avec eux. Nous, non. Moi, je suis vrai, je suis exigeant dans ce que je dis. Et en même temps, ils sentent derrière cette exigence un véritable amour. Et c'est ça qu'ils apprécient.
Ouais, moi, je pense que c'est certainement là que nous autres prêtres expérimentons la paternité. Paternité spirituelle, c'est-à-dire que ces jeunes viennent nous voir, ils voient en nous un vrai père. Et ils nous disent même des choses qu'ils ne diraient pas à leur propre père biologique, en fait. Et nous-mêmes, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, parce qu'on se dit, mais c'est incroyable, ce jeune voit en moi le Père des cieux, quoi. Je suis un reflet de Dieu le Père lui-même, quoi.
Vous avez des exemples de confidences, sans entrer dans le secret de la confession, mais des phrases, des choses qui vous auraient marqué et qui vous élèvent aussi dans votre sacerdoce?
Vous parliez tout à l'heure de cette jeune fille-là qui écrit. C'est vrai que moi j'ai su bien avant des parents qu'un tel ou une telle avait trouvé l'homme ou la femme de sa vie. J'ai su bien avant des parents qu'il y a eu tel ou tel dérapage plus ou moins grave dans la vie affective ou sexuelle. Oui, on est aux avant-postes de l'écoute et de la compassion, et c'est merveilleux.
C'est merveilleux, en même temps, c'est extrêmement exigeant. Il doit y avoir des moments où vous avez peur, non?
En fait, on dort très bien le soir. Peut-être pas assez, mais on dort très bien. Parce qu'en fait, je vais vous dire, c'est le Christ qui porte, c'est pas nous. Hein. Nous, on écoute, on ouvre nos cœurs, on essaye d'être, ce que je disais, le reflet du cœur de Dieu, mais on souffre avec les gens, on porte leur détresse et leur joie. Mais on dort très bien, pourquoi? Parce qu'en fait, je crois qu'on se prend pas au sérieux, en fait. Hein.
Oui, moi je fais 2 insomnies par an, c'est pas cher payé.
Ça va. Père Grosjean, vous vouliez réagir par rapport à ça? Non.
Si, mais moi ce qui c'est marrant, parce que souvent les jeunes qui viennent nous voir, au début ont un peu peur, enfin justement du regard du prêtre, du jugement du prêtre, etc. Et ils sont touchés de voir que d'abord on n'est jamais vraiment surpris, enfin on s'étonne de rien, le prêtre il connaît sa propre faiblesse, il connaît l'âme humaine, il sait un peu la vie, et puis en même temps on les accueille avec une bienveillance paternelle qui est géniale et qui libère vraiment. Et moi ma plus belle récompense c'est de voir un garçon ou une fille qui repart avec le visage, mais ça se voit sur sa figure, quoi. Il est libre, il a réussi à être vrai, il a réussi à avoir une discussion en profondeur, il a avancé, il a été relevé. Il a courage d'avancer pour la suite. Il va faire des choix lui-même. C'est pas le prêtre qui fait des choix à sa place. On est au service de sa liberté. Voilà, c'est génial. Moi, ça vaut le coup de donner ma vie pour ça, quoi. Et c'est pour ça que j'ai donné ma vie pour ces jeunes-là. Et du coup, c'est presque nous qui leur disons, mais mon vieux, ma vieille, si tu savais la joie que tu me donnes, quoi. Tu me montres pourquoi je suis prêtre. Voilà. Tu es le sens de ma vie. C'est pour ça que je suis prêtre.
Ouais, clairement. Puis il y a une grâce d'État, je crois, pour. Il y a une grâce d'État pour vivre notre ministère, parce que les trucs difficiles qu'on nous confie, le Seigneur nous donne la force de les porter, de les transporter dans la prière. Souvent, on s'interroge avant de devenir prêtre sur sa capacité humaine à porter tout ça, mais c'est d'abord une réalité surnaturelle, je crois.
Et alors, comment vont les jeunes aujourd'hui?
Vaste question. Comment vont les jeunes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui. Comment les sentez-vous?
Qui commence? Je me risque. Ils sont, Pierre, je pense, Pierre déjà très sollicités par l'image. On parlait d'Internet tout à l'heure. On est dans la civilisation de l'image. On peut regarder n'importe quoi, n'importe où, et même sur son téléphone. Du coup, on sent bien une grande sollicitation de l'image. Et des jeunes tentés, comme nous tous en fait, ce qu'on vit dans ce monde. Donc déjà, première difficulté. En même temps, grande générosité. Les jeunes, encore aujourd'hui, et c'est super, ont soif d'idéal, soif de vrai, soif de beau. Et on voit bien, nous, quand on leur dit ce que demande l'Église, en fait, hein, ni plus ni moins, ils disent, ce que vous demandez, c'est héroïque. Hein. On leur dit, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, qu'est-ce que t'en penses, toi? Et ils le disent, ils disent, c'est vrai, ça sent le vrai. Ça sent le vrai, ça sent le beau.
Alors c'est quoi ce qui est grand et exigeant? C'est quoi? C'est la fidélité, c'est l'amour pour toujours, c'est le don de soi.
Oui, c'est tout ça. C'est de vivre en vérité, c'est de vivre notre vocation, quelle qu'elle soit, dans le don réel de soi. Et ça, on n'a jamais fini. Mais c'est vrai que souvent on entend des discours un peu pessimistes sur les jeunes, ou je sais pas quoi, ou c'était plus comme avant, ou avant ils étaient mieux, machin.
Ouais, le suicide qui augmente.
Chaque génération porte ses forces et ses faiblesses, et cette génération-là, elle a ses forces et ses fragilités. Et en même temps, ce qui effectivement me touche beaucoup, c'est de voir le là aussi, et c'est transversal, quoi, quels que soient les milieux, de voir cette soif de vrai. Voilà. Moi, je fais pas mal de conférences dans les lycées ou sur l'amour vrai. Mais je suis hyper touché. J'arrive devant des classes de terminale où les trois quarts sont pas cathos, mais la parole de l'Église, c'est le dernier truc qui les bluffe, quoi. Parce que ça touche leur cœur, parce que ça vient toucher ce qu'il y a de vrai dans leur cœur, quoi. Et ça, je me dis cette génération-là, elle nous attend, et l'Église a quelque chose à lui dire. Elle est pas déconnectée à l'Église.
Oui, c'est clair. Aujourd'hui...
Père de Montalivet.
Aujourd'hui,
de Montardy, pardon.
De Montardy, avec un Y surtout à la fin.
Ça, c'est important. Affiche, oui.
Non, mais les... moi, je me bats un petit peu contre une espèce de foi tranquille. C'est plus possible, ça, aujourd'hui. Pas en 2010. Si on veut être catho, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut aller jusqu'au mystère de la croix. Il faut... avoir la prétention de vivre l'amour dans une vraie fidélité, dans un vrai don de soi. Les demi-mots, ça marche plus. On n'est plus porté par la société, donc on peut plus se contenter d'une foi pépère. Donc soit on y va à fond, soit on est planté.
Ce qui veut pas dire que on doit être coincé. Et du coup, je pense que c'est ça qui marche avec nos projets, entre autres, c'est qu'on leur propose une foi assez décomplexée. Oui, cette soirée qu'on a fait du réveillon jusqu'à 4 heures du mat, enfin surtout Olivier d'ailleurs.
Couché, ouais,
je me suis couché. 4 heures du mat, c'est vrai, le père Grosjean Lassodo qui a lancé la soirée en disant voilà, bienvenue.
C'était bon ça, avec la version remix de No We Are Free.
Ouais. Avec le grand portrait de Benoît XVI qu'on avait mis dans la salle, en disant, bah, bien sûr, bienvenue, Benoît XVI vous souhaite d'être heureux. C'est pas de la démagogie, c'est de leur dire, voilà, on est catho partout, on est catho à la messe le dimanche, et on est catho aussi en soirée. Le chrétien, c'est pas un meuble avec plein de tiroirs, alors le tiroir du dimanche matin à la messe, le tiroir des études, le tiroir de la famille, non. Le chrétien, c'est une grande malle où tout est mélangé, et Jésus-Christ féconde tout, et vivifie tout ça, quoi. Donc on a fait une soirée catho, et on a dansé.
Enfin, ils ont dansé.
Oui. Ils ont dansé.
Ouais, on les a regardés.
T'as pas dansé, toi,
Pierre ? Non, j'ai regardé.
Pourquoi ?
Bah, chaque chose en son temps, mais c'est aussi ça qui, je pense, touche les jeunes. En tout cas, moi, qui m'avait touché quand, de la part de certains jeunes prêtres qui m'ont beaucoup marqué, et qui n'ont pas été, du coup, sans incident sur ma vocation, c'était de voir des prêtres, qui sont capables de m'accompagner dans ma vie concrète, telle qu'elle est. Et de voir que le prêtre, justement, enfin, avec autant de naturel, peut passer des pistes de ski au confessionnal, en célébrant la messe, et que l'exigence de sa parole va en même temps avec une profonde bienveillance dans des paroles d'amitié aussi, dans le fait de faire du cast. Enfin, tout ça est unifié, quoi. Et le prêtre n'est pas que l'homme de la sacristie, et en même temps, les jeunes sentent aussi que tout ce qu'on leur donne. On est d'abord allé le chercher auprès du bon Dieu, quoi.
Alors, on va voir justement comment vous réussissez à faire cette unité, comment vous réussissez à unifier tout ça. On marque une petite pause musicale, on se retrouve juste après.
Aujourd'hui, l'Église. Thank you.
Voilà, vous venez d'entendre un Benedictus Hosanna de Palestrina. Et nous poursuivons notre émission aujourd'hui en direct de Versailles pour vous faire découvrir un projet né de prêtres, soutenu par l'évêque du diocèse, Padre Cup, Padre Events, Padre Blog, hein, trois blogs qui sont l'image de tout un projet de lien avec les jeunes. Avec nous pour en parler, trois invités, Père Olivier de Montardy, je rappelle que vous êtes vicaire de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc à Versailles. Père Pierre Amard, vous êtes vicaire à la paroisse du Chesnay et Rocancourt. Et Père Pierre-Hervé Grosjean, vous êtes vicaire pour les paroisses du groupement de Houille et de Carrières-sur-Seine. Comment faites-vous pour ne pas tomber dans l'activisme? Vous avez grosso modo combien de rencontres organisées avec les jeunes chaque mois et chaque semaine? Je voudrais avoir un aperçu de votre emploi du temps.
Mais le meilleur Père moyen Grosjean. De ne pas tomber dans l'activisme, pour moi j'en ai deux moyens. D'abord, on a tous un accompagnateur spirituel, un père spirituel. C'est un prêtre avec qui, pour moi, une fois par mois, à peu près, on va faire le point. Et puis là, on est vrai. Et puis parce que tout seul, on peut toujours s'auto-justifier, dans l'illusion, je sais pas quoi, mais le fait d'avoir à rendre compte, en vérité, à quelqu'un, c'est aussi un conseil qu'on donne aux jeunes, d'ailleurs, hein, mais on est le premier à se l'appliquer à nous-mêmes. Voilà. L'aide d'un ancien, d'un père spirituel.
Un
vrai extérieur qui nous aide, justement, et c'est le deuxième moyen, à garder le bon Dieu à la première place. La vie d'oraison, les sacrements, la prière, la messe tous les jours. Tout ce qu'on propose aux jeunes, on le fait nous-mêmes en premier. Et c'est pour ça qu'on le propose d'autant plus facilement aux jeunes. C'est qu'on leur dit, mais on est comme vous, quoi. Si moi je prie pas, je vais pas faire quoi que ce soit de bien. Si je prie pas, je suis faible. Si je prie pas, je peux rien faire de bien.
Et alors la place des jeunes dans votre emploi du temps, ça représente quoi? C'est tout le reste?
Non, parce qu'on est dans vicaire d'une paroisse, et comme vicaire d'une paroisse, on est aussi envoyé à tous. Et nos personnes âgées, parfois, nous rappellent qu'il n'y a pas que les jeunes. Et on est aussi là pour elles, et heureusement qu'elles sont là aussi pour prier pour nous et nous aider. Mais, donc on essaye d'être à tous. Après, comme jeune prêtre, c'est vrai qu'on est... Moi, j'ai des aumôneries de collège, de lycée, j'accompagne des groupes scouts. Bon, c'est eux qui prennent la majeure partie de mon temps, oui.
Père Olivier de Montardy.
Oui, puis c'est souvent les missions que nous donne l'évêque aussi.
Bien sûr.
Il n'est pas idiot, il va donner des missions
d'aumônier
à de jeunes prêtres, même si ce n'est pas exclusif.
Et l'activisme dans tout ça? Oui, Père Amar.
Vas-y, tu as commencé à dire quelque chose.
Sur la prière, oui. Moi, je suis convaincu que on se branche sur Dieu, on se recharge. C'est-à-dire que voilà, on branche nos portables, on recharge nos batteries, on recharge nos batteries du cœur par la prière. Il y a des jours où je cache pas où c'est un vrai combat, la fidélité dans la prière. Des jours où j'y vais avec beaucoup de joie. Mais voilà, s'il n'y a pas de fidélité là, le reste suivra pas. Et on tombera peut-être dans le fameux star system qui nous va nous horripiler, quoi. Bien sûr.
J'imagine que vous entendez tout le temps « Oh là là, il est génial ce prêtre, il est cool, il est super, ses homélies sont super, en même temps ils sont cool.
Ouais, »
Comment ne pas tomber dans l'orgueil total?
On entend aussi par personne interposée qu'il y a des choses qu'on a dit ou qu'on a fait qui n'ont pas plu, hein, ouais. Donc ça équilibre un peu la balance. De toute façon, on travaille à pas mesurer notre action et la fonder sur les on-dit, sur les appréciations des uns et des autres. Mais à partir du Christ et de l'Évangile.
Et on fait des erreurs, comme tout le monde.
Oui, surtout toi, oui. Non, c'est vrai, oui. Bien sûr qu'on se plante, c'est évident.
Il y a mon curé, je sais, mon premier curé, le père Jean-Marc Beau, qui m'a beaucoup aidé dans mes premiers pas de ministère. Et alors un jour j'étais un peu mal parce que je savais qu'il avait reçu des lettres suite à un de mes sermons, des lettres un peu enflammées. Et alors je vais le voir et je lui dis, mais voilà, si j'ai mal fait, enfin dites-le moi, j'ai pu me planter, peut-être c'était un peu trop dur, c'était un sermon sur les soirées en plus, j'étais à Versailles à l'époque.
Et vous en disiez quoi?
On en parlera après. Et alors et il m'a dit un truc très vrai, il m'a dit écoute, faut que tu renonces à l'illusion de vouloir plaire à tout le monde. Et je crois que c'est peut-être un des plus grands dangers pour un prêtre. C'est de vouloir chercher à plaire, de plus être lui-même et de plus avoir cette liberté de l'Évangile. Le Christ, lui aussi, a provoqué la polémique, a provoqué l'enthousiasme des foules et en même temps aussi la persécution. Enfin, donc, je crois qu'on a besoin de gens sûrs pour nous conseiller, de paroissiens, de gens qui ont un peu un jugement certain pour nous aider, pour quand on nous a fait des bêtises ou des erreurs, on dit attention là-dessus, là, voilà, rectifier. Et en même temps, après, on est libre, quoi. Un prêtre qui a du caractère, il plaira pas à tout le monde. parce qu'il bouscule, parce qu'il étonne, parce que il innove, parce que tout... donc ça bouscule un peu tout ça, et forcément, voilà, ça suscite des réactions enthousiastes pour certains, choquées pour d'autres. Mais d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que souvent, ce qui enthousiasme les uns va scandaliser les autres. C'est les mêmes choses. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans l'obéissance, on vit dans l'obéissance, ça nous protège. Mmh. Là, le feu vert de l'évêque, c'est vraiment la condition sine qua non. On vit dans on essaye d'être conseillé, d'être encouragé, et puis ensuite on avance librement.
Bon, on en déduit quand même que vous soutenez les soirées, puisque vous étiez à la sono du dernier 31.
Ah, mais moi je dis toujours une chose, le but c'est pas de dire c'est pas bien, c'est bien, enfin c'est pas interdit, de toute façon nos jeunes, dans ce cas-là, ils savent très bien, la ligne rouge ça suffit pas. Oui. La question c'est d'être libre, c'est-à-dire de quelle façon tu vis ta soirée. Oui. Moi je dis toujours, c'est à la fin de ta soirée, tu peux te dire, c'est le bon Dieu va me chercher, je suis prêt. C'est-à-dire, je suis resté vraiment dans... Voilà, j'ai vécu ça sous le regard de Dieu. Eh bien, génial. Si t'as été vrai, génial. Il faut apprendre. Le but, c'est pas de... Le but, c'est vraiment pour moi d'éduquer la liberté de nos jeunes. Voilà. De faire des vrais choix. Mais si... Et de montrer qu'on peut avoir une joie vraie sans s'abîmer.
Alors, les projets, vous en avez, vous êtes débordant d'idées. Quels sont les...
Et encore, on vous dit pas tout. Hein.
Ah ouais, c'est ça. Alors, j'ai plein de tracts sous les yeux. Vous êtes arrivé, vous m'avez envahi de flyers, de tracts. On va peut-être citer donc l'un des grands projets qui arrive presque à grands pas. Hein. Le soleil va bientôt sortir de la neige. Lundi 7 juin, la Padre Cup, troisième championnat de karting des prêtres. Ça fait partie du projet.
Oui, alors tout est sur un site internet qui est opérationnel, padrecup.fr. Derrière ça, ce qui pourrait apparaître comme une private joke là, de curé, un petit chahut de jeunes prêtres, pas du tout. En fait, on voudrait désengager un peu, désembroussailler, dépoussiérer un peu l'image du prêtre un peu coincé à l'autel, les mains serrées, les yeux mi-clos, pas très rigolo, pas très fun. Et on voudrait leur dire, ben voilà, les prêtres sont capables de se détendre, sont capables de vivre comme des hommes ordinaires, et même s'ils portent des choses merveilleuses en eux, hein, et qui les dépassent, ben voilà. Donc on a organisé ce championnat de karting, et on invite tous nos confrères, on y va, de France entière. Allez, de toute la France, pour faire ce championnat de karting.
Qui aura lieu à Trappes,
donc en banlieue là des Yvelines, dans le circuit Jean-Pierre Beltoise, le 7 juin, toute la journée. Alors on va tous prier pour gagner, lequel sera exaucé, on verra, hein, c'est la surprise.
Un petit suspense, oui.
Sachant que c'est au service d'associations humanitaires. Et on s'est, là aussi, on s'est dit, ben, on n'est pas non plus déconnecté des soucis des hommes de notre temps. On a envie de les aider. Mmh. On joint l'utile à l'agréable. Et puis, comme dit le père Amar, et il le dit toujours très bien, comme tout ce qu'il dit, j'avais promis de dire du bien de lui au moins deux fois.
Je m'en souviendrai.
C'est aussi important de montrer que, Le prêtre, il est unifié dans sa vie. Enfin, il est aussi heureux de prier pour les gens qui lui sont confiés, de confesser, de voir des confrères, de servir. Enfin, c'est une même joie qui parcourt toute sa vie, quoi. Et y compris au milieu parfois de difficultés, hein.
Alors, ce sera 12 jours de la clôture de l'année sacerdotale. Ça fait partie des initiatives que vous avez choisi de lancer au cours de cette année sacerdotale. Ça peut paraître un peu décalé. C'était l'objectif, Père de Montardi?
Ben oui, c'est quand même une façon de répondre à l'invitation du pape, de mettre le paquet sur la figure du prêtre pour que les chrétiens nous connaissent mieux et connaissent mieux ce qui fait le cœur de notre ministère. Si vraiment le cœur de notre ministère, c'est être tout à tous au nom du Christ... Ben allons-y avec ce que nous sommes. Oui, je crois que ça s'inscrit bien dans cette année sacerdotale.
Et puis ça s'inscrit dans notre désir de un peu de casser les idées reçues. Moi, je suis étonné quand je prends des pots avec les jeunes ou je sais pas quoi, de voir les idées reçues, les clichés. Et alors, il suffit qu'on commande. Non, mais c'est drôle, mais on commande une bière. Et on voit la tête des jeunes qui hallucinent, quoi. Ils étaient persuadés qu'on allait prendre un lait fraise ou je sais pas quoi. Et en même temps, on prend une bière et en même temps, on parle en prenant sa bière d'un sujet hyper profond, hyper important pour le jeune lui-même. Et c'est drôle de voir, voilà, dès que ces clichés tombent un peu, ces idées préconçues tombent, bah, du coup, les cœurs s'ouvrent et puis on s'aperçoit aussi que plein de malentendus sur ce que l'Église pouvait dire, machin, tombent aussi parce qu'on l'explique autrement, parce qu'on l'explique en vérité, parce qu'on l'explique avec joie aussi.
Mais de temps en temps, on nous reproche de lancer une vaste opération média pour faire changer l'image du prêtre, comme si c'était un truc un peu artificiel, quoi. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est simplement de vivre de façon décomplexée, publique, ce que déjà on aimait faire auparavant. Par exemple, le karting, c'est pas la première fois qu'on en fait, quoi.
Non, c'est le troisième. Ouais.
C'est déjà le troisième championnat. Alors, c'est vrai que les précédents étaient plus confidentiels, un peu entre nous, sur un ton un peu badin. Puis on s'est dit, mais pourquoi pas donner un peu plus d'ampleur à ce projet-là, un peu plus de visibilité.
Combien inscrits là pour l'instant?
On est une cinquantaine à peu près, ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, c'est le gérant en fait de ce circuit de karting. La première fois que nous avons vu arriver tous en col romain, un peu, à l'aise, il nous a dit, mais attendez, vous êtes tous prêtes là, vous êtes déguisés. Il a dit, ah, on n'est pas déguisés, on est prêtes. Et il nous a dit,
je vais préciser, on n'est pas à la télé, vous êtes tous en col romain, ça vous y tenez.
Même sur le kart.
Il nous a dit, j'aurais jamais cru ça possible d'un prêtre. Et nous, ça nous a réveillés, on s'est dit, tiens, c'est marrant, mais quelle image, quel cliché il a du prêtre.
Oui.
Votre objectif, à travers tous ces projets, c'est pas aussi de susciter de nouvelles vocations, hein. On dit prier pour les vocations. Est-ce que vous, il y a des jeunes autour de vous qui, tout d'un coup, ont des yeux qui s'ouvrent en disant, ah bah oui, finalement, c'est peut-être pas si loin que ça, c'est peut-être pas si loin de moi, cette vocation?
Exactement. Moi, ce qui m'avait marqué quand j'étais jeune, quand j'étais lycéen, c'est de voir des prêtres heureux d'être prêtres. Et capables de comprendre ma vie concrète. Voilà. Qu'un prêtre soit pas déconnecté. Et du coup, je me disais, quand je me suis posé la question, c'est pas ça qui m'a donné la vocation, c'est Dieu qui donne la vocation, mais quand je me suis posé la question, tiens, est-ce que moi je serais pas appelé, ça m'a pas paru complètement extraterrestre, voilà. Les prêtres, j'ai compris que Dieu appelait des gars comme moi, voilà, avec leurs forces et leurs faiblesses, mais des gars qui me ressemblaient.
Des gars ordinaires.
Et c'est ça, enfin... Ça, je trouve ça important. C'est, on fait pas ça pour. C'est pas de la séduction artificielle pour avoir des prêtres. Mais si des jeunes qui se posaient la question d'être prêtres peuvent découvrir à travers ça qu'un prêtre, c'est un type qui est heureux, c'est un type qui est pas seul, c'est un type qui a des frères prêtres autour de lui, c'est un type qui renonce pas non plus à mettre en œuvre ses qualités, ses charismes humains naturels. C'est un type qui peut faire du sport aussi un peu.
Ça te ferait du bien d'en faire un peu.
Moi,
là.
C'est ma résolution 2010.
Ça aussi, on s'était promis.
Vous mangez bien,
l'antenne.
Vous avez mangé beaucoup de fondue avec
non,
les
c'est pas parce qu'on
et
mange
et
bien qu'on doit faire du sport. On fait du sport tout seul.
La question de la vocation, elle est, bien sûr, on en parle entre nous et puis on se pose la question de savoir qui nous remplacera à l'hôtel plus tard, hein, quand on sera parti. On en parle, on en témoigne, sans tabou, avec nos jeunes, mais sans fixette aussi. C'est-à-dire, on n'y pense pas du matin au soir, quoi.
Ouais.
Mais on y pense, voilà.
Ouais, le plan, c'est un peu d'honorer la question de la vocation dans toutes les propositions que l'on fait. Un parcours catéchuménal, une préparation à la première communion, un pèlerinage des pères de famille. Bon, ils sont déjà casés, pardon. Mais dans tous nos projets, ils ont des enfants, ouais. Mais on essaye de resituer la question de la vocation particulière, qui est comment, dans ma vie, je peux vivre d'une façon authentique, radicale, profonde, entière, l'appel à me donner par amour pour les autres et pour Dieu.
Est-ce que c'est la préoccupation des jeunes aujourd'hui, ou est-ce qu'ils sont complètement dans d'autres préoccupations? Comment les voyez-vous aujourd'hui? Enfin, je vous ai demandé comment ils allaient, mais là, par rapport à cette question de la vocation, est-ce que c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup, comment je peux savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que Dieu va m'envoyer dans tel monastère? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des gros tabous et de gros clichés encore sur la vocation? Ou est-ce que finalement ils sont beaucoup plus libres? Ils s'en occupent pas trop?
On en voit certains, et c'est d'ailleurs toujours, moi c'est toujours quelque chose qui m'émerveille de voir justement des jeunes qui ont vraiment ce désir de chercher la volonté de Dieu et de la faire, de la réaliser. Et ça, je trouve ça, nous on n'en est que témoins à ce moment-là, on accompagne, mais on est témoins de l'œuvre de Dieu, du choix de Dieu sur quelqu'un. Je pense qu'un des grands enjeux pour nos jeunes aujourd'hui, c'est d'être assez libre, en fait, libre pour choisir. Et je pense en particulier par rapport à la pression sociale. On leur met la barre très haute au niveau des études. Il faut faire des études, il faut faire de bonnes études, il faut réaliser de bonnes études, il faut être dans la bonne prépa, il faut être dans la bonne école.
Vous parlez surtout d'étudiants de Versailles.
De Versailles ou de nos familles chrétiennes qui aujourd'hui sont, pour beaucoup, sont quand même dans ce souci-là. Et il y a quelque chose de très légitime. On a envie que ces enfants réussissent. Mais du coup, c'est une vraie question que souvent je pose aux parents. Dire, est-ce que vous avez conscience d'être au service de la vocation de votre enfant? Qu'est-ce que c'est pour vous de dire que votre enfant va réussir? Qu'est-ce qu'il réussit? Est-ce que vous le laissez assez libre là-dessus?
Oui, on a le droit de pousser un petit coup de gueule à la radio.
Ah, mais allez-y sans problème.
Direct, oui. Mais non, c'est vrai que très très souvent, on voit des parents qui poussent énormément pour les études, et on les comprend. On est les premiers d'ailleurs à soutenir ça, puisqu'on organise dans le cadre de Padre Evans un truc qui s'appelle Cato Boulot Dodo et qui consiste à donner un lieu de révision des examens avec non seulement des prêtres pour les accompagner spirituellement, mais des profs de haut vol pour les aider à réussir leurs examens. Mais quand des parents disent à leur gamin qui leur dit « je pense à devenir prêtre, écoute mon coco, t'enterres ça pour le moment, on verra
enfin,
ça plus tard, passe ton bac, après passe ton école ». Et puis après, quand ils ont leur école, bah écoute, mon fils, on s'est saigné pour que tu fasses ce boulot-là, tu vas pas quand même rentrer chez les curés. Et on n'en sort pas, et on n'en sort pas. J'entends aussi beaucoup de parents qui disent, moi je prie pour qu'il y ait des vocations, mais alors surtout pas chez moi. Ils me disent, mais sans complexe, comme ça. Est-ce que, alors je sais pas ce qui va pas du côté des parents, mais là, il y a un petit travail de remise en question à faire, je pense.
C'est un prêtre qui disait, la vocation, tout le monde est pour, c'est comme les autoroutes. Tout le monde est pour, mais il faut que ça passe dans le jardin du voisin, quoi. Du coup, ouais, le coup de gueule, je crois qu'il est dit là, Olivier.
Oui, merci. Ouais.
On est bientôt au terme de cette émission. Donc, il y a 3 sites internet à retenir. Au-delà, donc, je vais les donner. Au-delà de ces sites, quelles sont les grandes infos que vous voulez donner absolument avant que cette émission s'achève?
Ah, c'est sympa, c'est sympa. Notre prochain projet, événement, c'est du ski. Du ski à Morzine-Avoriaz pour tous les lycéens et lycéennes qui le souhaitent. C'est la deuxième semaine des vacances de février pour la zone Paris-Créteil-Versailles. Les dates précises, Pierre, c'est quoi?
28 février, 6 mars.
Voilà. Et donc,
les inscriptions sont pas encore closes?
Non, et on a encore des places, il faut pas hésiter. On a une bonne équipe d'encadrement, 6 prêtres. Voilà.
Et c'est pas trop cher?
Non.
Combien?
Et Grosjean, l'université d'été, faut en parler ça aussi.
Cet été, on organise l'université d'été. Il y aura bientôt plus d'infos. Voilà, l'idée, c'est de proposer à des étudiants de rencontrer des grands décideurs chrétiens pour les faire réfléchir justement à la question
sur l'actualité.
Sens de leur ambition, question du sens de leur réussite. Voilà.
Très bien. Et puis pour creuser toutes ces questions, donc padrecup.fr. Si vous êtes prêtre, vous pouvez aller vous balader sur ce site. Padreblog.fr. On peut largement réfléchir aux questions d'actualité. Et padre. Alors là, il y a un petit tiré exceptionnellement. Tire-events.fr pour toutes les.
Voilà. C'est un tiré du haut. Padre-du-haut. Events.fr. Events, ça veut dire événement en anglais.
Voilà, bah merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Père Pierre-Hervé Grosjean, Père Olivier de Montardy et Père Pierre Amard.
Merci Elodie.